on s'en va dans 1 Samuel, mais on n'ira pas tout de suite dans chapitre 26. On va s'introduire avec les deux premiers versets du chapitre 22. Vous allez voir pourquoi. Donc, on est dans 1 Samuel, mais on commence avec le chapitre 22. Comme à l'habitude, après que j'aille lu, je vais prier et j'ai hâte de vous partager ces belles vérités de la parole de Dieu. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient là dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Seigneur, puisses-tu ouvrir nos yeux qu'on contemple les merveilles de ta parole, les merveilles de qui tu es. Tu es le plus grand et le meilleur David, mais merci qu'on peut considérer la vie de cet homme et s'y retrouver, s'y identifier et justement trouver notre identité. Donc on s'en remet à toi pour que tu nous enseignes comme juste toi peux le faire. Merci que c'est toi le vrai enseignant, c'est toi qui fait l'œuvre véritable dans les cœurs, une œuvre éternelle. Et donc, on s'en remet complètement à toi, Seigneur, pour ce temps béni que tu nous donnes ensemble. On te le demande au nom de Jésus. Amen. On va voir ensemble le leadership de notre vraie identité. Puis on peut dire, d'une certaine manière, la Bible est un recueil d'études de cas, là, de différents exemples. D'identité. Par exemple, Abraham, le père d'une nation. Parler d'un projet, là. Ouais, toi, là, tu vas être le père d'une nation. Oh, wow! Tout qu'une identité, tout qu'un projet. Joseph, dans encore la Genèse, tu vas être le libérateur de ta famille, puis du peuple nombreux que ça va devenir. Puis Moïse, un peu la même chose, dans le même pays, mais dans des circonstances différentes et plus tard. Toutes ces personnes que nous chérissons, hein, on aime ces personnages de l'Ancien Testament, ils ont reçu un appel d'être des leaders selon l'identité que Dieu leur donnait, leur vraie identité, leur God-given identity, leur identité qui leur vient de ce que Dieu faisait d'eux autres. Évidemment, on pourrait en nommer tellement, là. Pour ça que je vous dis, la Bible, c'est comme un recueil de ça. Et souvent, là, ils étaient comme ça, des leaders et tout ça, mais bien malgré eux, leur vision d'eux-mêmes, là, comme, ben, voyons, je ne peux pas aller devant Pharaon, j'ai trop peur, je ne parle pas comme il faut. Les circonstances, Joseph qui est tout allé contre ce que Dieu avait montré dans son rêve. Les personnes, justement, Joseph aussi, ses frères qui l'ont presque tué. Et donc, Dieu leur parlait selon leur vraie identité, selon le projet que lui avait formé sur eux autres, sur le plan que lui avait pour eux, et même au-delà, parce qu'on sait que ces gens-là, ils ont eu des histoires qui se sont terminées, là, des milliers d'années, mais c'était la grande histoire de la rédemption qui est en train de s'accomplir et qui s'est accomplie en Jésus-Christ. Tout ça était préparatoire, tout ça fait partie du grand plan de Dieu. Et savez-vous quoi? On est encore aussi dans ce grand plan. On est ici, c'est-à-dire un enfant de Dieu, fait partie de l'histoire de la rédemption. Et si vous ne l'êtes pas encore, vous êtes invité à y prendre part. Wow! Ça, c'est une invitation à faire partie de l'histoire glorieuse de la rédemption du Dieu vivant. Rien de moins, mes amis, et c'est effectivement ce à quoi Dieu nous appelle, par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et tout ça, c'est par l'identité que Dieu nous donne. Ce n'est pas une identité autoproclamée, c'est Dieu qui dit, comme on a vu dans notre premier message pour le mois d'avril, il a dit à Jésus, « Tu es mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et il nous dit aussi la même chose à nous qui sommes en Jésus. C'est l'identité que lui nous donne, et d'où l'importance ici de voir le leadership de notre vraie identité. Parce qu'on va voir, bon, avec David, là, son histoire, puis vous allez voir la semaine prochaine aussi, on va voir encore des implications avec le dernier message avec David. On va voir trois effets bénéfiques. On va appeler ça, plus facile à dire, le leadership identitaire. Okay, le leadership identitaire. Trois effets bénéfiques. Avec David ici, d'abord, le premier effet bénéfique, le leadership identitaire attire à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on commence ici, dans chapitre 22. D'abord, avant de regarder le leadership de David, je vous pose la question, c'est quoi ça un leader? Vous savez quoi, j'ai pris ça d'un livre, là. C'est tellement simple, c'est tellement vrai puis beau comme définition d'un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui veut que les choses changent pour le meilleur. Que les choses changent pour le meilleur. Pas compliqué, hein? Mais je trouve que c'est une bonne définition de leadership. Et Dieu aime et produit des leaders par chaque personne qu'il sauve. Pas juste un certain nombre, mais quand on est un enfant de Dieu, quand Dieu nous sauve, il veut faire de nous un leader. Pas toute la même sorte de leader. C'est pas des... Tu sais, là, quand on fait des biscuits, là, à Amlas, ils sont toutes la même forme, là. C'est pas ça que Dieu fait. Dieu fait une mosaïque. Dieu est créatif. Il nous fait tous différents, mais il veut faire de nous des leaders parce qu'il nous incorpore dans son grand projet rédempteur. Si on en fait partie, c'est parce que Dieu a quelque chose pour nous là-dedans pour y prendre part pleinement, pas comme une décoration, pas comme un spectateur, mais comme un acteur actif dans ce plan rédempteur unique et merveilleux. Et comment que Dieu fait ça? Ben, il fait ça à travers la transformation. Dans le fond, lorsqu'on laisse Dieu nous transformer, lorsqu'on le laisse nous modeler, l'impact de cette transformation dans nos vies et à travers nos vies, dans le monde autour de nous, c'est ça que Dieu va utiliser pour exercer son leadership à travers nous autres. Prenons l'exemple ici de David. Une prophétie qui est donnée dans Ésaïe, on va dire que c'est vraiment pour le plus grand et le meilleur David, mais David est une ombre de Jésus, puis il est quand même l'ombre, là. Moi, juste être un ombre de Jésus, je suis bien content, là. Ben, Ésaïe 11, versets 1 et 2 nous dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » Puis Isaïe, là, ceux qui ne savent pas, c'était le terrestrement, là, OK? C'est le père du roi David. Mais là, ici, évidemment, on parle de façon prophétique, ça nous amène évidemment à Jésus. Et donc, « Et un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Savez-vous, c'est comme ça que Dieu s'adressait à David. Dieu s'adressait à lui selon ce projet-là qui était en branle. Évidemment, ça allait bien au-delà de David, mais déjà, Dieu s'adressait à lui comme ça. Donc oui, comme un berger, poète, guerrier et roi, mais animé de cet esprit. C'est comme ça qu'il s'adressait à lui. Et je vous pose la question, comment Dieu s'adresse à toi? Oui, on peut dire, OK, comme son enfant, tout ça, mais y a-t-il quelque chose de plus précis? Puis peut-être, je ne sais pas comment Dieu s'adresse à moi, comment Dieu me voit, tu sais, pour son royaume précisément. Et on... On a juste à lui demander, « Dieu, comment tu me vois? Je suis quoi, moi, dans ton plan? C'est quoi mon but précis pour lequel tu m'as sauvé? » Vous savez que Dieu est capable de nous communiquer ça? Puis c'est libérateur, puis c'est la vérité. C'est pas juste des affaires qu'on s'invente. Et c'est vraiment quelque chose de bon, parce que ça change absolument tout pour l'accomplissement de ce plan, de ce projet. Donc, Dieu parle de l'identité pour accomplir son projet. On a parlé de ça hier. Avec Raphaël, et c'est vraiment, c'est pour tous les enfants de Dieu. Donc, si on revient à nos moutons, David ici, dans le moment de l'histoire qu'on considère ensemble, il est en train de fuir le roi Saül. Puis c'est là qu'il apprend qu'il y a du monde comme ça qui veulent se joindre à lui. Puis c'est du monde ici, c'est quand même, c'est pas la crème de la crème. On pourrait dire. C'est des gens qui étaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, autrement dit, ils étaient dans dette, OK? Qui étaient mécontents. Wow, c'est une belle gang, ça, hein? Ça fait penser à Jésus. De qui Jésus s'est entouré? De gens pas mal de même, hein? C'est drôle, c'est un type de Jésus, ça, ici, qui s'entourait de gens comme ça, un peu tout croche. Mais pourquoi David et Jésus aussi a attiré ce genre de monde? Je crois que c'est parce que David connaissait son identité. Et bon, on a dit son identité, c'est berger, poète, guerrier et roi. Et même, on apprend plus tard que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et savez-vous quoi, dans le passage qu'on a lu là, avant la prière tantôt, là, dans Matthieu 26, on voit pourquoi que Dieu dit que c'est un homme selon mon cœur. Ah oui, il y avait l'occasion de se venger, puis il a usé de miséricorde. Il y a un type de Jésus, hein, comme sur la croix, qui dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ça le cœur de Dieu, c'est la gloire de Dieu de pardonner, d'être miséricordieux. Et donc, David manifestait ça. Fait que je pense que les gens autour de lui, quand ils voyaient David, il y avait une idée un peu plus, c'est quoi le cœur de Dieu? Et c'est ça qui les attirait, c'est le Dieu de David. C'est comment Dieu était attaché à son... David était attaché à son Dieu. Wow, ça c'est un leader comme il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? Pas à cause de David, à cause du Dieu de David. Parce que ces hommes, même, si on peut aller plus loin, c'est des hommes, on va dire, désœuvrés, mais sont devenus, littéralement, le mot, c'est les Guiborim, ça veut dire les plus vaillants. Les plus vaillants, c'était tout que des guerriers, là, les plus vaillants de l'histoire d'Israël. Ils ont en fait la nomenclature, puis ça dit ce qu'ils faisaient, leurs exploits, puis là, un qui a fait ci, puis l'autre ça, puis ils tenaient devant des géants, puis des armées, puis... OK? Comment sont arrivés à ce point-là? Par l'identité que David vivait, son identité de roi, qui est le moyen que Dieu a utilisé pour ces gars-là, les sortir d'eux-mêmes, qui voient au-delà de juste, ah, je suis quelqu'un qui a des dettes, quelqu'un qui est bien content. Oh non, il y a un projet. Il y a un projet que je vois, puis Dieu est là-dedans. Donc, vu le fait que David a vécu son identité, puis qu'il a rentré comme ça dans le projet de Dieu, ils ont pu rentrer, embarquer là-dedans. Ils ont été inclus dans ce projet rédempteur du fils de David. Ces hommes étaient reconnus pour tenir debout et tenir ferme lorsque tout le monde s'enfuyait. Ils étaient connus aussi pour, lorsque tous avaient une mentalité de victime, eux autres, c'était des conquérants. C'est ça, les gens qui suivaient David. Et n'est-ce pas que la Bible aussi nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme, spécialement contre les ruses du diable. Comment qu'on tient ferme? On tient ferme par la vérité. Jésus est la vérité. Jésus vit en nous. Tenir ferme, c'est s'attacher, c'est demeurer en Christ qui vit en nous. C'est là le secret de la force du leadership identitaire qui attire à Jésus. C'est tenir ferme dans ce que Jésus a fait de nous, dans ce que nous sommes en lui, dans son royaume. Mais malheureusement, beaucoup trop souvent, on peut vivre au lieu de vivre dans la vraie identité que Dieu a pour nous, on peut vaciller entre l'identité réelle, rappelez-vous, on a vu ça, ce qui est une bonne identification des problèmes, mais on ne voit pas au-delà. Puis même carrément vivre dans des identités fausses. Et là, on devient comme dans Jacques 1:5. On est partagé. On est. C'est quoi le mot partagé? Mais l'autre, c'est. Dans Jacques. Irrésolu. Irrésolu. Littéralement, deux pensées. On est comme partagé entre deux pensées. Et c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième bénéfice du leadership identitaire. Non seulement le leadership identitaire nous attire à Jésus, mais nous pousse à Jésus, nous donne la poussée dont on a besoin. Voulez-vous qu'on voit ça? Voulez-vous une petite poussée dans le dos? On va y aller avec... Là, on y va dans le chapitre 26. On va juste lire un verset pour l'instant. Mais dans le chapitre 26, David donne un défi au verset 6. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Éthien et à Abishaï, fils de Tirujal et le frère de Joab, il dit... Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Puis ça, c'était dangereux, là. C'était tous des hommes armés, l'élite, 3000 personnes d'élite. C'était pas un petit camp, là. Qui veut descendre au milieu, là? Il faut tout traverser ce beau monde-là, là. Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishaï répondit, moi, je descendrai avec toi. C'est une très bonne chose. Lorsqu'on embrasse notre identité, lorsqu'on la vit, d'attirer à Jésus, mais le leadership identitaire va plus loin, nous pousse vers Jésus, nous donne pas une contrainte méchante, mais ici, comme il met au défi, qui veut venir avec moi? Et il donne l'occasion ici d'aller au-delà, d'aller plus loin. Et on va voir ici, il y a vraiment une illustration puissante de ce que ça veut dire de vivre ce leadership identitaire. Parce que dans ce chapitre ici, qu'on a lu ensemble tantôt, c'est dans le contexte que David a comme sa petite armée insurrectionnelle. Parce que c'est une armée dans le pays. Tu sais, ici, là, si on avait, tu sais, il y a l'armée canadienne, s'il y avait une armée, là, mettons, chinoise, dans le pays qui est formée, on appelle ça de l'insurrection, OK? On n'a pas le droit, je veux dire, tu n'as pas le droit d'avoir une armée dans un pays étranger, OK? Ben, c'est ça que David faisait. Il avait sa petite armée, OK, vous dites armée, 600 personnes, mais quand même, il était redoutable, là. Fait que là, c'était comme ça qu'il était, OK? Puis, pensez-vous quoi? Il aurait pu vraiment tout virer à l'envers puis amener du trouble. Mais il n'a pas agi en ennemi de Saül. Il y avait une armée, mais pas pour se lever contre Saül. Il ne voulait pas lui rendre l'appareil parce qu'il aurait été justifié. « Hey, il veut me tuer. J'ai été oint par l'Éternel. C'est moi le roi légitime. » OK? Il avait tout en ses moyens, même avant là, d'arriver ici avec la lance puis la cruche, là, il aurait déjà pu vraiment combattre son ennemi. Mais qu'est-ce qu'il fait à la place? Il lui fait du bien. Parce qu'est-ce qu'on voit, là, les chapitres avant? Il combat à gauche, à droite, puis ça l'aide, Saül. Il aide à la stabilité du pays, puis à la protection. N'est-ce pas un peu une illustration de la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance? Vous voyez, il y a tellement de types de Jésus là-dedans, c'est assez impressionnant. Mais pourquoi que David, même avant ici, puis ici, lorsque l'occasion en or, là, il est là devant lui, puis la lance est là, c'est tellement facile. C'est facile, hein, les tentations de la chair, c'est comme tout de suite, tout est beau, tout est là. Mais pourquoi qu'il n'a pas agi comme ça? Parce qu'il a agi en roi qu'il était. Je n'ai pas besoin d'enlever le roi qui est là, je suis déjà le roi. C'est juste pas encore tout accompli. Il croyait à ce que Dieu avait dit. David, t'es le roi d'Israël. T'as pas encore tout, disons, cané, comme on dit, mais c'était pas loin. Puis il a agi non seulement en roi, mais en roi courageux. Il a pas été figé par la peur. Puis c'était contagieux. Il a poussé les autres à être courageux puis à marcher par la foi, eux autres aussi. C'est ça l'idée ici de la leadership identitaire qui pousse à Jésus-Christ. Autrement dit, il n'a pas essayé, David, d'être toutes ces choses-là. Okay? Il n'a pas essayé, OK, là, je vais être un bon roi comme je devrais être. Non, il a juste fait, il a embrassé, il a vécu la destinée, l'identité que Dieu avait. Il a juste vécu selon ce que Dieu avait dit. Il n'a pas essayé quelque chose, il a vécu ce que Dieu disait de lui, ce qu'il avait déjà dit. Il a juste ajouté foi à ça. Puis, vous savez, c'est pas suffisant de juste pas être peureux. Le courage, c'est plus que ça. Le courage de la foi, c'est pas auto-régénéré, mais c'est reçu par Dieu. Si vous voulez du courage, n'essayez pas de créer du courage en vous-même. Allez à Dieu qui donne le courage. Parce que ce que Dieu dit de nous, ce qu'il fait de nous, ce qu'il a fait de nous, c'est ça la source de notre courage. La source, autrement dit, du courage de la foi, elle n'est pas en nous, elle est en Dieu. Puis, dans le défi qu'on vient de lire ici au verset 6, sa question, ça pousse au courage, ça pousse à la foi, ou on peut dire ça pousse à Jésus-Christ. Et c'est fondé, pas juste sur des belles paroles, mais sur l'expérience d'une vie qui n'était pas dirigée par la peur. Pourquoi il n'avait pas peur là? Ben, c'est pas la première fois qu'il était face au danger puis qu'il a agi malgré la peur, qu'il a agi par la foi. Et comment? Ben, je pense que le secret de David, c'est la pratique de la présence de l'Éternel qui dit, hein, à 365 reprises dans la parole. Je n'ai pas vérifié en français, là, mais ça a l'air. Là. Puis vous m'excuserez, je n'ai pas vérifié en comptant chacune. Là, puis j'imagine qu'à ce temps, on peut tout faire ça électroniquement, là, mais 365 fois, Dieu dit dans sa parole, n'aie pas peur. C'est une pour chaque jour. Ceux qui n'avaient pas compris, là, 365 jours par année. Sauf que l'année bissextile, une journée, on peut avoir peur parce que là, faut Pour la fête à Joe Saillon, pas avoir peur. Et donc, il avait expérimenté comme ça la grâce de Dieu qui le délivrait de lui-même. Parce que je ne pensais pas que David était au-dessus de tout ça. David avait sûrement des fois le goût de prendre les choses en main, peut-être ça, mais à se confier en Dieu comme ça, il a appris la bonté de l'Éternel, sa fidélité. On le voit dans les psaumes, on voit que ce n'est pas un homme parvenu, mais il se confiait comme ça. Et c'est ce qui est arrivé ici. Et son leadership spirituel, David, c'était essentiellement de prêcher par l'exemple. Pourquoi? Il a pris 100% part au risque. Il n'a pas dit, qui veut y aller, puis moi, je ne vais pas. Il est allé avec Abishai. Si vous voulez avoir une tribune d'influence, si vous voulez avoir un cercle d'influence auprès de ceux que vous aimez, n'ayez pas peur de vous mouiller les pieds, de prendre le risque de la foi. Et ici, je pense qu'on a un exemple. Vous savez que comme pasteur, je prends un risque d'une façon lorsque je veux encourager une culture de transparence, de ne pas avoir peur d'être vrai. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui a le goût d'être vrai par rapport à ses faiblesses, puis ses peurs, puis tu sais, c'est plus facile de se cacher derrière l'anonymat ou tout ça. Donc, on peut dire qu'il y a un risque à ça, mais je le prends 100%, puis j'y prends part. Ça me dérange pas d'être vrai par rapport à mes luttes, mes faiblesses, puis mes choses. Je pense que c'est ça l'idée de pousser à Jésus-Christ. Parce que ce qu'on veut comme église, une église qui n'est pas de problème, que tout est beau, en tout cas, qu'il y a de l'air, ou une église qui est vraie, puis que non, tout n'est pas beau, puis moi, j'aime bien mieux l'autre, parce que là, on est dans le vrai. On est dans le matériel que Dieu utilise pour, bâtir son œuvre, son église. Et donc, c'était le deuxième bénéfice du leadership identitaire. Il pousse à Jésus-Christ. Et avec la suite du chapitre d'ici, on voit que le leadership, troisièmement, a comme bénéfice de nous ramener à Jésus-Christ. Attire à Jésus, pousse à Jésus, nous ramène à Jésus. Remarquez ici la différence entre l'attitude et la réaction d'Abishai. Abishai, je ne sais pas trop comment le prononcer. Là. Le gars avec Jésus, là. Avec David, pardon. Abishai dit, « Hey, t'as ta chance, Dieu met ton ennemi devant toi pour que tu puisses te venger. » C'est quoi l'attitude de David? « Non, c'est pas la volonté de Dieu, puis c'est pas mon rôle non plus. » Et ça, de la part de David, c'est brave, c'est de la foi, c'est de l'intelligence spirituelle, parce que David était solide dans son identité, il n'avait pas besoin d'aller là. Il n'avait pas besoin de manipuler les circonstances pour essayer de se rassurer dans son identité de roi, parce qu'il croyait que Dieu l'avait déjà fait roi. Il s'attendait à Dieu, et c'est aussi ce que ramenait Abishai à la foi. C'est une douce réprimande. Ah, t'as peur, on va pas prendre les choses en main, on va laisser Dieu agir, on va arrêter pour savoir que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui domine sur les nations. C'est lui qui place les rois. Et pour transposer dans la terminologie du Nouveau Testament, David n'a pas agi dans le domaine par les moyens de la chair, mais a recherché la conviction du Saint-Esprit, et ça l'a marché parce que, qu'est-ce que Saül a dit, verset 21? Saül dit, après, là, que, bon, il a eu l'occasion de se venger, puis là, il est parti, puis là, il a crié, puis il s'est fait connaître. Regardez ce que Saül dit au verset 21. « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne referai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. » Wow! Ça, c'est... Est-ce que David a tout eu besoin de dire ça? T'es donc bien insensé, David. T'agis en insensé, tu fais toutes sortes de choses tout croche. Il n'a pas besoin de rien dire. Il a laissé Dieu agir, puis c'est Saül qui l'a dit de lui-même. Ça, c'est pas mal mieux. Savez-vous quoi? C'est ça qu'on doit rechercher si on veut marcher par l'Esprit. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux, que le Saint-Esprit convainque pour amener ce genre de confession. Parce que ça, ça vient de Dieu, ça vient pas de nous autres. Et son arme à David, c'est la vérité. Dans les versets 13 à 16, il fait juste amener des choses. Il dit, hey, regarde, il y a quelqu'un qui est allé, là, puis il a pris la lance, puis l'eau, Vous ne l'avez pas protégé. Vous n'avez pas assumé votre rôle en tant que celui qui, ceux qui sont auprès du roi pour le protéger. Il a juste dit les choses. Regarde, vous avez manqué à votre devoir. Il n'a pas essayé de faire des techniques de manipulation. Il a juste amené les faits. Voici ce qui est arrivé. Puis, une autre arme aussi qu'il utilise, ça, c'est la dextérité pour utiliser la vérité. C'est l'humilité. Il dit, hey, je suis rien. Là. Il dit, puis il prend l'expression, c'est comme si tu cours après une perdrix des montagnes. Là. Voyons, tu perds ton temps, là, je suis rien. Là. Donc, la vérité dans l'humilité, c'est ça les armes que David a utilisées pour vaincre son ennemi. Spécial, hein? Pensez-vous qu'on a pas mal les mêmes d'autres avec? Absolument. Paul dit, on n'a aucune arme contre la vérité, on en a pour la vérité. Puis Paul a utilisé beaucoup d'humilité envers, justement, quand il a dit ça, c'est des Corinthiens, puis les gens s'attaquent à lui. Il n'a pas essayé de se défendre lui-même. Il a laissé Dieu le défendre. David a répondu à Saül en plaidant sa confiance en l'Éternel. Regardez le verset 19 et 20. Que le roi, là c'est David qui parle, que le roi, mon Seigneur, d'être maintenant écouter la parole de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Il plaide ici à ce que Dieu puisse faire justice. Sa confiance est en l'Éternel, c'est en lui qu'il s'en remet. Et c'est ça l'idée de ramener, du leadership identitaire qui ramène à Jésus-Christ, c'est d'être centré, non pas sur nous-mêmes, mais sur le Dieu qui lui fait justice, qui lui est capable de convaincre. Et c'est ça le leadership humble qui produit la conviction du Saint-Esprit. Ça peut paraître plus dur que par la manipulation, mais les résultats sont 100 fois meilleurs. Et ça, ça va déterminer complètement la suite des choses pour la vie de David. Parce que David, là, l'histoire continue. Après ça, il est devenu pleinement roi. Okay? Si vous ne connaissez pas le reste de l'histoire, là, peu de chapitres après, malheureusement, Saül et ses fils meurent à la bataille. Okay? Puis dans 2 Samuel, on voit David qui devient vraiment là, le roi d'Israël à Jérusalem et tout ça. Et là, après ça, il avait un beau projet de faire un temple. Puis Dieu a dit, ton identité, c'est berger, poète, guerrier et roi. Et ton identité de guerrier, ça ne va pas avec bâtir un temple. Tu as répandu du sang. Ça va être ton fils qui va être le bâtisseur. C'est lui que j'ai désigné pour ça. Puis David l'a accepté. David avait, hey, il voulait être dans la maison de l'Éternel. Il chérissait la présence de l'Éternel. Pour David, ça devait être, « Ah ouais, Dieu, moi qui t'aime, tu veux pas que je te bâtisse ce temple? » Non, Dieu avait d'autres choses pour lui. Mais voyez-vous, non seulement positivement, il a accepté l'identité que Dieu lui donnait comme roi, puis il a agi selon ça, mais aussi quand Dieu a dit, « Non, c'est pas ça que j'ai fait de toi », il l'a accepté ça aussi. C'est ça aussi que ça veut dire de vivre à la lumière de l'identité que Dieu nous donne, de prendre celle-là qu'il nous donne, puis de laisser aux autres celle que Dieu donne aux autres. Parce que c'est sorti aussi dans la prière. C'était quoi le problème de Saül? Il était jaloux. Une jalousie meurtrière. Puis il ne voulait pas accepter ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, c'est fini pour toi. Mais il n'a pas voulu, puis il a essayé de prendre les choses en ses mains. Dans cette optique, on peut dire que Saül et David sont comme un type de la chair et de l'esprit. Un qui essaie de faire des choses d'accomplir, puis l'autre qui se confie en l'Éternel. Ou marcher par la chair, marcher par l'esprit. Et donc, on voit encore, hein, ça n'a pas été juste l'histoire de ici quand on considère cet événement-là. Pour le reste de sa vie, Dieu appelait David à marcher selon l'identité qu'il lui avait donnée, selon le projet que Dieu avait pour lui, sur mesure. Puis il voulait qu'il revienne constamment. C'est ça l'idée de leadership identitaire qui ramène à Jésus, se ramener constamment à ce que Dieu a fait de nous en Jésus. Et donc, ça amène à cette conclusion simple. Savez-vous, c'est quoi l'ultime projet de Dieu? C'est Jésus. L'histoire de la rédemption se résume dans la croix, la résurrection dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. D'où l'importance vitale d'exercer un leadership spirituel centré sur Jésus, d'attirer à Jésus, de pousser à Jésus et de ramener à Jésus tout par rapport à Jésus. C'est ça, notre leadership. On n'a pas besoin de tout inventer, on a juste besoin de toujours se ramener à celui qui est notre identité, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a donné cette identité. Et comme David, ça veut dire d'adapter notre approche aux problèmes, aux menaces, là, comme lui, là, de l'adapter selon ce que Dieu dit de nous autres, de vivre selon ça. C'est pas plus compliqué. Puis pour David, ça voulait dire quoi? Ben pour David, ça voulait dire de résoudre ses conflits, là, genre quelqu'un qui veut te tuer, là, puis qui ne se tente pas de vouloir te tuer, là, en aimant son ennemi. C'est christique, ça aussi. Puis lui montrer qu'il y a de la valeur à ses yeux, c'est ce qu'il a dit ici. Hein, c'est Saül lui-même qui a dit, j'ai de la valeur à tes yeux. N'est-ce pas encore là que ça nous pointe à Jésus? Il a aimé son ennemi, puis il a donné de la valeur comme Jésus nous a aimé, puis il est mort alors qu'on est encore pécheurs et rebelles. Il a versé son sang pour nous. C'est la valeur qu'il nous a donnée. Et donc, tout ça, ça va arriver seulement si on se voit dans cette position de faiblesse, de besoin, et d'agir selon l'identité que Dieu nous a donnée. On n'est pas capable, ce n'est pas des choses qui viennent de nous-mêmes, elles viennent de Dieu. Ce n'est pas autoproclamé, ce n'est pas auto-formé, ça nous vient de Dieu. Et ça va arriver seulement en embrassant, lorsqu'on voit cette faiblesse, qu'on embrasse la force, la toute-puissance de Dieu. On est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Et donc, ce matin, est-ce que tu peux réellement réclamer cette position de « en Jésus » parce que tout commence à la croix. Tout commence en acceptant Jésus comme son sauveur. Ça commence en passant des ténèbres à la lumière, de passer de la mort à la vie, du royaume de Satan à celui de Dieu. Et enfant de Dieu, est-ce que tu entends Dieu te parler selon ta vraie identité? Et là, j'amène une nuance ici. Tu l'entends-tu te parler selon « t'es mon enfant »,« t'es accepté »,« t'es aimé ». Ça, c'est un premier niveau, mais même plus personnellement. « T'es mon bâtisseur »,« t'es mon travailleur dans l'ombre », qu'est-ce que Dieu te communique sur ce qu'il a fait de toi précisément? C'est quoi son projet sur ta vie? Il y en a un, croyez-vous? Puis croyez-vous que aussi Dieu peut vous le communiquer? Ça fait toute qu'une différence parce qu'après ça, on agit selon ça. Ça nous donne un but, ça nous donne une fin à laquelle on peut s'attacher puis revenir constamment. J'en ai aucune idée. Juste à le demander à Dieu. Dieu est capable de nous le communiquer. Dieu est vivant et il peut communiquer à ses enfants. Et si vous entendez quoi que ce soit d'autre comme identité qui veut être soufflée dans vos oreilles, Dieu nous parle toujours selon la vraie identité, selon la vérité, selon ce qu'il a fait de nous. Fait que si j'entends dire « t'es pas bon, t'es pas capable, t'es bon à rien », ça vient pas de Dieu. Ça vient de la chair, ça vient de l'ennemi, ça vient du monde. Savez-vous quoi? C'est mon appel ce matin. Ça a été cité tantôt par notre sœur dans la prière. Moïse qui a dit au peuple, lorsqu'il allait opérer cette grande délivrance de la sortie d'Égypte, il leur a dit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Où j'aime Habacuc 2.20, « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Et ça fait bizarre, avant d'en appeler au peuple à la prière, mais je dirais le silence du cœur, ça change complètement notre façon de prier. Des fois, on peut arriver avec Dieu plein de mots, plein de pensées qui s'agitent en foule au-dedans de nous autres. Mais lorsqu'on prend juste le temps de faire silence devant Dieu, hop, c'est drôle là. Notre prière va être complètement différente. C'est à ça que je nous invite ce matin. Oh oui, Seigneur, merci que tu nous appelles à toi et que tu as formé des projets sur chacun de tes enfants. Il y a le grand projet rédempteur en Jésus-Christ, mais c'est tellement grand et infini C'est une mosaïque tellement variée que chacun y a sa part. T'as pas oublié personne, il n'y a pas personne que tu as mis de côté, t'as dit, toi tu es juste une décoration, tu es juste quelqu'un qui est là mais qui sert à rien. Oh non, lorsqu'on est ton enfant, tu as un but avec nous autres. Tu nous as sauvés avec des desseins bienfaisants, libérateurs. D'abord pour nous libérer de nous-mêmes, mais aussi pour embarquer dans ce projet, dans ce plan que tu as pour chacun de nous autres. Alors, Seigneur, on veut faire silence dans nos cœurs et te laisser parler. Toi, communique, Seigneur, à chacun ici, son identité propre, son projet sur mesure, ton projet. Oui, on vient à toi, Seigneur, dépendant. On vient comme des petits enfants ce matin. Et on veut apprendre de toi. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.